Popopien et tous les autres aussi, bonjour, il va être question de futur aujourd'hui dans Popopop, car oui, n'en déplaise aux climatologues les plus alarmistes, aux dépressifs chroniques, aux punks à chiens et aux fins du mondistes, car oui, il est des fins du mondistes au même titre que des tiers mondistes ou des droits de l'homistes. Bref, n'en déplaise à tous les cassandres, il y aura bien un futur. Certes, pas forcément avec nous, les hommes, vu qu'après avoir flingué tout ce qui bouge, il ne nous restera plus qu'à nous entreflinguer, mais un futur quand même. Certains, comme nos invités, réincarnation du bon vieux Jules Verne, y croient plus que d'autres. Et d'ailleurs, ils viennent nous parler du scénario qu'ils nous ont concocté et dans lequel nous découvrons à quoi ressemblera Paris en 2119. Oh, 2119, bah dans 100 ans quoi. Alors Paris, la France, le monde, je ne sais pas, mais nous serons très moyennement frais. Et peut-être animerai-je enfin vivement dimanche ou vivement dimanche prochain ma fidèle Charline mollement étendue sur le canapé rouge, fraîchement naturalisée. Autant de perspectives relativement réjouissantes, en tous les cas infiniment moins que ce somptueux album de BD imaginé par cet homme infiniment perturbé, suborneur de notre belle jeunesse, Zep himself, et dessiné par Dominique Bertaille qui nous rejoindra tout à l'heure.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Zep.
Bonjour.
Rebienvenue dans ce studio et rappelons-le quand même, votre nom vient de votre fascination pour le groupe Led Zeppelin.
Eh oui.
Ok. À mes côtés, celle qui est fascinée par les singes de l'Arctique, enfin le groupe, hein, pas les primates, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Zep. Vous voulez me faire empailler donc en fait ?
Pas du tout. Quel sera votre nom de dessinatrice ?
Oh, je ne dessine pas Antoine et c'est mieux pour tout le monde.
Voilà une bonne nouvelle, autant pour moi. Zep, avant d'aller plus loin, c'est vous où vous serez jeudi prochain à 16h ?
À 16h, à Angoulême probablement.
Alors je vais vous dire moi où vous serez. Vous serez devant votre poste de radio à écouter Popopop. Pourquoi ? Parce que notre invité sera Jimmy Page.
Oh, waouh!
Ah, waouh! Ah, voilà.
Ah, waouh!
Wow. Hein, à 16h, devant votre poste.
Est-ce que vous diffusez jusqu'à Angoulême ou
Oui, on diffuse sur toute la France, oui.
Ah, oui, c'est loin, quand même.
La maison n'est pas chiche. Et comme je vous le dis, nous avons dépêché notre envoyé spécial, Paul Smith, chez Jimmy Page à Londres pour une interview exclusive.
Incroyable.
Et là, je sens une lueur.
Ah, ouais, bah, il en donne quand même assez peu, le garçon.
Il en donne très rarement. Vous ne me croyez pas, donc.
Bah, je le croirai quand je l'entendrai.
Bon, bah écoutez déjà ça.
Hi, this is Jimmy Page.
And I'm Paul Smith.
And we're on
Pop, Pop, Pop.
Alors
oh, putain.
Alors
ça me la coupe, là.
Ah
ouais.
Bah, déjà qu'il en restait pas grand-chose. Bon, bien, avec nous également tout à l'heure, le dessinateur Dominique Bertaille, qui signe avec vous, Zep, la BD Paris 2119, dont nous allons... Mais avant d'en parler, Zep, ici il existe une question qui peut faire mal au slip, hein, comme dirait Titeuf, et cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses éphistopalantes, Robert Planteuse, phrases hypothèques et même incapacitantes. Parmi mes préférées, il y a celle de Bilal.
Alors, pop culture, moi je vois deux mots, les deux mots, pop et culture, pop populaire, ce qui touche à un très grand nombre de toutes sortes de d'origines sociales, et culture, ce qui va vers l'excellence, la qualité, l'exigence, la liberté. Donc c'est lorsque peut-être le populaire rencontre l'exigence.
Voilà la proposition de Bilal.
Voilà, qui est précis.
Qui est précis, oui.
Ouais, ouais.
Car vous n'allez pas l'être, vous, peut-être.
Oh ben, il a déjà fait la définition. Je ne vais pas la refaire. La pop culture, ça évoque quoi ? Pour moi, être statufié dans la pop culture, c'est avoir un distributeur pèse à son effigie. Vous avez un distributeur pèse à votre effigie ?
Non.
Hein ? Et vous, Charline ?
Pas encore.
Oh ben non.
Non.
Ah, voilà. Moi, je les mange, les bonbons, mais ouais, je ne les redonne pas.
Là, voilà, là c'est vraiment high
ça,
level.
C'est le top,
quoi. Ouais, ouais.
Donc vous-même,
je sais pas
vous
si
avez
Jimmy Page, un distributeur pèse. Profitez peut-être de lui poser la question.
Vos personnages en ont peut-être.
Non.
Même pas
Monsieur Pèze, si tu nous entends.
Bah ouais.
Titeuf n'a pas de distributeur pèse.
Non.
C'est un scandale.
Quelle humiliation.
Enfin.
Ouais. Pas bon. Complètement pop culture. Sinon, alors la pop culture, c'est les pochettes de Kiss des années 75, 76. Où ils sont dessinés un peu comme des demi-dieux.
Ouais,
ça
ouais,
fait un peu
ouais.
Peinture pompier du 19e.
Ouais.
Voilà.
Ce qui nous vaut ce maquillage que vous arborez aujourd'hui
voilà,
dans notre studio.
Mais ça passe par tous les temps, c'est joli. Ça
surtout à la radio.
Ouais,
surtout
c'est waterproof.
Bien, alors on va parler de pop, de culture et de pop culture dans la suite de Popopop, juste après le morceau Not Easy to Cook du groupe Cannibal, dernière pépite pop signée par le label Born Bad Records.
guided on how to cook it in a pressure cooker in a bain-marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
The microwave oven will do the trick. I turn the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, this will carry me so sweet, true.
Orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
Still hot and steaming. Approaches me. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
Gosh, this look very so serene.
Not easy to cook, pas facile à cuisiner, c'est peut-être pour ça que ce groupe s'appelle Cannibal. C'est extrait de l'album éponyme. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité dont le nom tient en trois lettres. S-Zep, Jules, Zaz, Lio, VGE, BHL. J'espère que c'est pas Zaz, j'espère que c'est pas Zaz. Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, ben, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rer.
Aujourd'hui, nous recevons un artiste que nous ne saurions résumer à la simple équation. Un enfant, c'est un papa et un crayon. Puisque certes, c'est à lui qu'on doit la vie et l'œuvre agitée du gamin à mèche et au langage imagé, hein, fait d'expression à base de sous-vêtements masculins, le jeune Titeuf. Non, ce n'est pas tout, puisque notre invité a décidé de faire de nous une zone d'éducation prioritaire. Vous l'avez, cette zone d'éducation prioritaire. En nous proposant par exemple un ouvrage d'anatomie, le guide du zizi sexuel, une encyclopédie musicale, Happy Rock, un hymne qui nous est destiné, nous les femmes, nous le charme, Happy Girls, un manuel de savoir-vivre en chambre à coucher, Happy Sex, et par conséquent, et dans la droite lignée, un ouvrage pour ceux qui ont bien appliqué les conseils du précédent, soit Happy Parents. On lui doit aussi un formidable journal de bord, What a Wonderful World, une belle histoire de silence avec un bruit étranger beau, ou encore une alerte bien sentie et toute récente avec The End, publiée il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes donc ravis d'accueillir vraiment pas que le papa de Titeuf. Aujourd'hui, scénariste d'une belle BD, mais qui fait quand même un peu flipper.
Vraiment pas que le papa de Titeuf. C'est un bon nom de compte pour Twitter, ça, non ?
Un petit peu long quand même, non ?
Peut-être par lettre ?
Non, mais c'est ça. Vous résumez vraiment pas à Titeuf, pour ceux qui vous connaîtraient mal.
Non, bon, fatalement, on me ramène toujours à Titeuf. Hein. C'est celui qui est le plus connu, quoi. Mmh, c'est la mèche qui dépasse du groupe. Mais mais ça me dérange pas, je trouve ça cool. Et c'est souvent assez étrange parce que comme je fais des projets comme là, l'album avec Dominique Bertha et Paris 2119, on est très loin de Titeuf. Alors là, c'est pas moi qui dessine, mais quand c'est moi qui dessine, comme dans Diane, les gens se disent mais c'est le même. Est-ce que pourquoi vous prenez pas un autre nom? Enfin, pour moi, ça participe. Enfin, c'est le même boulot et c'est un côté amusant même du travail du dessinateur, c'est qu'on peut on peut faire des choses très dans des registres très différents. Tout le monde, enfin beaucoup de dessinateurs l'ont fait. C'est, je dirais même que ça fait partie du plaisir de dessiner. Hein. On aime bien dessiner. C'est pas parce qu'on aime bien dessiner des bites sur la table qu'on n'a pas envie de raconter des grandes histoires romantiques. Enfin, ça peut aller avec.
Vous êtes tout à fait libre de le faire. Vous avez un style.
J'ai vu que mes petits camarades avaient déjà pas mal tartiné au table.
Ils ont déjà laissé des graffitis. Donc dessiner ce que vous voulez. Bien, Zep, qu'est-ce qui fait se dresser votre mèche à vous? Pour le savoir, passons à votre pop liste. Hop. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. On va commencer par le livre. Et là, vous avez choisi la Bible ou les Schtroumpfs noirs. Charline, je vous ai laissé choisir vous-même entre ces deux piliers de la culture occidentale. Et à la surprise générale, vous avez choisi les Schtroumpfs noirs.
Oui, de manière très arbitraire, dans une volonté de concision et d'humour. Les Schtroumpfs travaillent au pont sur la rivière Schtroumpf, sous la supervision du grand Schtroumpf. Tous, sauf une grosse feignasse. Hein. Le plus paresseux, et en guise de punition, le grand Schtroumpf l'envoie dans le bois chercher une grande perche. Il se fait alors piquer à la queue par la mouche et se transforme en quelques instants en un Schtroumpf noir. Il devient fou, violent, agressif.
Bien, merci pour le pitch. Zep, auriez-vous la bonté de nous lire?
Mais avec plaisir.
Une page d'une Schtroumpf noire, s'il vous plaît.
Je chausse mes lunettes.
En respectant évidemment les intonations de la BD.
C'est-à-dire qu'il y a deux écoles. Hein. Vous savez que quand le Schtroumpf noir mord, il fait gnap ou niap. Voilà. Moi, je suis plutôt niap. Je vais le faire en niap.
Allons-y pour le niap.
Il est toujours noir, dont nos petits Schtroumpfs, ils ne bougent plus. Délie-le vite et Schtroumpfez-le dans mon laboratoire, dit le grand Schtroumpf. Pauvre Schtroumpf, niap. Aïe, il m'a mordu, niap, niap, aïe, il m'a globe, glube, niap, niap, niap. Quel désastre. Il faut que je me fasse un autre remède, je ne sais pas s'il parle du scénario. Mais. Voilà.
Mais effectivement,
c'est un monument de littérature jeunesse. On ne peut pas vraiment le résumer comme ça. Ça ne lui rend pas hommage, mais c'est un très bon,
pourquoi album. Celui-là plutôt, par exemple, la naissance de la Schtroumpfette? Qui est au moins aussi fascinant.
Celui-là, moi, c'est le premier que j'ai lu. Et celui-là est très marrant, parce qu'il y a plein d'anecdotes autour, notamment le fait que c'est que la version américaine des Schtroumpfs noirs, c'est les Purple Smurfs. Et quand on dessine, les Schtroumpfs ne sont pas coloriés en noir, ils sont dessinés en noir. C'est-à-dire que le studio Peyo a dû redessiner l'entièreté de l'album pour que les personnages soient violets au lieu de noirs, puisque c'était considéré comme un album raciste. Voilà, et c'est un album qui a un destin incroyable, qui est traduit dans le monde entier. Et puis ces petits personnages qui, à la base, sont une farce entre Peyo et Franquin, sont devenus vraiment des passages emblématiques. Et, alors aujourd'hui, c'est depuis très longtemps, c'est un studio qui fait des albums au kilomètre qui sont pas forcément passionnants, mais les albums réalisés par Peyo, qui est un grand conteur, le Schtroumpf noir, les Schtroumpfs noirs, le Kakoukas, le Schtroumpfissime, la Schtroumpfette, c'est magistral, c'est vachement bien raconté, c'est bien écrit, et puis cette idée de substituer les mots par Schtroumpf. Moi, je fais partie de la génération qu'on vouait aux enfers si on lisait de la bande dessinée. On allait devenir des espèces d'abrutis illettrés.
Ce qui n'est pas tout à fait faux.
C'est pas tout à fait faux, mais aujourd'hui, vous allez avoir des professeurs et des pédopsychiatres qui disent que c'est vachement intéressant parce que l'enfant, dans sa tête, essaie de trouver le mot qui correspond à Schtroumpf. Et il y a tout un jeu à la fois de lecture, mais en même temps créatif, parce qu'on trouve pas forcément tous le même mot. Par exemple, si on dit ça me gratte la Schtroumpf, tout le monde autour de cette table va imaginer, voilà. Jambes, moi je pensais tête, voilà. Vous voyez?
J'ai bien compris, nous avons affaire à un schtroumpfialiste. Merci Zep. Alors Zep, pour le film, vous schtroumpfez le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, sorti en 1936. Charline, vous qui êtes une femme honnête, schtroumpfez-nous de quoi parlait ce succulent roman.
Un homme rédige ses mémoires et il raconte comment son destin était complètement chamboulé. À l'âge de 12 ans, il vole dans le tiroir-caisse de l'épicerie de famille pour s'acheter des billes. Ses parents le grillent, le punissent en le privant de dîner. Et le soir même, toute sa famille meurt empoisonnée en mangeant un plat de champignons.
Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon an mal an 5000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. Nous étions 12 à table. Un plat de champignons, du jour au lendemain, me laissa seul au monde. Car 2 heures auparavant, j'avais volé 8 sous. Ce crime allait avoir pour moi des conséquences imprévues, car mon père en courroux s'était écrié « Puisque tu as volé, Tu seras privé de champignons.
Mais quelle est la morale de cette histoire, Sepp?
Eh bien, c'est qu'il faut parfois mentir pour inventer une bonne histoire. C'est l'histoire de Sacha Guitry, hein, et mais j'ai choisi ce film, il y en aurait pu avoir plein d'autres, mais moi j'adore les films avec une voix off. Je trouve que c'est génial. Et pour finir, ça se fait moins. Enfin, c'est par période, par mode, mais voyez, les grands films français avec la voix de Jean Rochefort qui raconte En éléphant s'est trompé dans le monde, nous irons tous au paradis. Il y en a plein, mais la voix de Sacha Guitry qui raconte cette histoire, effectivement, c'est presque un roman illustré plus qu'un film. C'est ultra drôle.
Et avec ce ton.
Ouais, c'est, bon, plus personne parle comme ça, mais
très peu.
C'est dommage.
C'est dommage. On peut essayer de faire une émission.
Non, encore sur France Inter.
À France Inter, vous en avez encore quelques-uns, il me semble. Ouais.
Zep, pour la série, vous avez choisi Black Mirror. C'est une série créée par Charlie Brooker, diffusée sur Netflix. Charline, j'espère que vous avez des infos de première main, autre que c'est une grande série qui fait peur, une dystopie avec pour ennemi les mêmes technologies, non ?
Non. C'est une grande série qui fait peur, une dystopie avec pour ennemi les nouvelles technologies.
Est-ce que tu entends des voix ?
Non, pas des voix, mais il y a quelque chose.
Bandersnatch, c'est cela qui provoqua sa chute.
Je suis inquiet pour toi. On va éviter de déranger Stéphane.
Qui est Stéphane ?
Votre destin est déjà écrit. Vous ne le maîtrisez pas.
Alors évidemment, quand on lit le livre dont nous allons parler dans quelques instants, Paris 2119, on comprend votre intérêt pour Black Mirror. Il y a un épisode en particulier ou c'est l'ensemble ?
Non. Ce que je trouve vachement intéressant justement, c'est que chaque épisode soit une histoire à une autre époque, avec une autre problématique. Il y a des épisodes très très noirs, il y en a qui sont un peu plus optimistes. Mais je trouve ça vachement riche en termes d'écriture. Beaucoup de séries sont très intéressantes aujourd'hui, donnent tout dans le premier épisode, pas mal dans la première saison, et puis après on sent que il y a une espèce de gros effort pour faire durer la franchise. Parfois on est tous embarrassés quand on le regarde, alors que là franchement sur un épisode ils donnent tout chaque fois, et c'est vachement intéressant.
Celui dont on a entendu la bande-annonce, c'est Bandersnatch, le dernier en date, celui qui a été mis en ligne en décembre, qui est un épisode interactif. Vous avez joué, vous l'avez regardé ?
Je l'ai pas vu. Non, racontez-moi pas la fin.
Pour un scénariste, ça peut être drôle.
Il meurt pas, la fin, je crois. Bien, terminons cette pop liste avec la chanson. Et là, Zeb, vous hésitiez entre n'importe quelle chanson de Bob Dylan ou bien ça.
Juste après, de plus près.
Le Big Bisou de Carlos, sorti en 73, et comme donc on vous a aidé à choisir, il faut maintenant nous expliquer ce choix du chanteur à chemise hawaïenne, amateur de soda, mais pas que.
C'est court comme extrait, non ?
Oui, c'est court.
Je trouve qu'on entend trop peu le Big Bisou sur France Inter.
Vous en voulez encore à vous ?
Allez, encore un petit peu. Encore.
Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du jeu.
Son de batterie, c'est génial, non ?
Hein ? C'est ta balle. Bon, c'est bon, là.
C'est bon, c'est bon.
Oui, c'est bon. Alors, expliquez-vous.
Alors, c'est sorti, si je puis me permettre, je crois que c'est sorti en 77. Moi, j'avais 10 ans, et franchement, c'était le truc top, parce que, imaginez les booms, quand on a 10 ans, il y a les filles qui dansent entre elles, les garçons sur le banc qui ricanent, et là, c'était le moyen de danser et d'embrasser.
Oh,
donc, franchement, reconnaissance éternelle à Carlos.
Mais comment ça se danse ?
Musicalement, on se dandine, mais il y a un moment où, quand même, on arrive au contact, c'est ça l'idée.
Au moment du big bisou, quoi.
Du big bisou. Il y a bisou sur la main, sur les cheveux, sur les yeux, etc. Au moment sur la bouche, là, c'est un peu technique, il faut essayer de ne pas quitter la piste à ce moment-là. Et donc, Carlos, ça fait beaucoup pour les jeunes de ma génération. Ce qui fait qu'on peut lui excuser tous les dommages qu'il a fait au monde de la musique. Et je trouve que ça méritait d'être dit aujourd'hui.
Et on le remercie, où qu'il soit.
Merci, Carlos.
S'il nous écoute, Carlos. Merci pour les big bisous. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y avait eu ce genre d'annonce à la radio au moment de son décès, où un animateur avait dit « On lui souhaite bonne route voilà. ».
Bien, je résume Les Schtroumpfs, le roman d'un tricheur, Black Mirror et Big Bisou. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
Pauvre Schtroumpf.
Yap.
Aïe.
Est-ce que tu entends des voix ?
Notre famille était nombreuse. Nous étions 12 à table.
Juste après,
on sera privé de champignons.
De plus près.
Votre destin est déjà écrit.
Embrassez-vous.
Il est toujours noir dont nos petits Schtroumpfs, il ne bouge plus.
Vous ne maîtrisez pas.
génial. Je veux le single. Franchement, Sacha Guitry qui fait un featuring sur Big Bisou, c'est bon ça, non?
Yep, yep, yep.
Ouais, c'était bah, le mixeur de pop culture. Merci. De Zep. Zep, avant d'accueillir Dominique Bertaille pour parler de Paris 2119, votre dernière BD, écoutons celle que le NMI, le New Musical Express, compare à PJ Harvey. Ça s'appelle Anna Calvi et ce morceau c'est As a Man.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop.
As a man.
As a man, ça veut dire comme un homme, hein, oui, quand je parle couramment anglais.
Vous êtes bilinguillole?
Ben, bilinguillole, mais c'est un morceau de la chanteuse anglaise Anna Calvi dans Pop 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 sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Zep et vient de nous rejoindre Dominique Bertaille. Bonjour Dominique Bertaille.
Bonjour.
Et merci d'être revenu au Bertaille. Oui, car c'est aussi une émission où le rire est roi. Tous les deux, vous venez nous présenter votre dernier né qui mesure 31 cm, et ça me parle, et qui pèse près de 970 grammes. Il se porte bien, les parents sont heureux.
Bah les bords sont carrés, donc
c'est dur à passer. Hein.
C'est douloureux. Ouais. Ça s'appelle Paris 2119, c'est édité aux éditions Rue de Sèvres. Alors vous allez nous parler un peu de sa conception, en gardant en tête bien sûr que des enfants écoutent, et de sa gestation. Vous n'en êtes pas à votre première collaboration, hein, comme dit Éric Zemmour?
Non, deuxième.
Deuxième, la première fois c'était un peu particulier parce qu'on était, c'était un projet vraiment à beaucoup de personnes, ça s'appelle Infinity Eight, avec Lewis Trondheim, Olivier Vatine, et c'est une saga de SF en 8 tomes, et chaque tome était co-scénarisé par un suppléant de Lewis Trondheim et avait un dessinateur propre. Donc on a fait le premier avec, avec Dominique.
Lequel a choisi l'autre pour Paris 2119 ?
Bah, on s'est choisi un peu mutuellement. C'est-à-dire, moi, j'ai posé la question à Dominique qui a accepté.
Voilà, <c'est... rire> voilà, Infinity Head, c'était le contraire. C'est moi qui t'ai choisi.
Ouais.
Mm-hmm. Bon, enfin, vous vous êtes choisi.
Zeb, vous en signez donc le scénario, Dominique les dessins. On a beau nous répéter en chanson que demain c'est loin, ce qui frappe dans cette bande dessinée, c'est qu'en réalité 2119, bah, c'est tout près. Pourquoi ce futur si proche ?
Justement, pour que ce soit pas complètement différent. La vie dans 100 ans, elle est pas... Enfin, on n'en sait rien, hein, mais dans cette histoire, elle est pas si différente. Ce qui a changé, c'est la manière de se déplacer, principalement, puisque...
Il y a moins de voitures dans les rues, quand même.
Il n'y a plus de voitures dans les rues, les gens sortent plus, puisqu'ils ont la possibilité, déjà, de vivre le monde qu'ils ont, dans lequel ils ont choisi de vivre de manière virtuelle, ce qui est pas très, très différent de ce qu'on vit aujourd'hui, qui est en train de s'installer maintenant. Mais en plus, il y a la faculté de se téléporter. Et ça, c'est le gros changement, puisque s'il y a téléportation, il n'y a plus besoin de s'emmerder dans les bouchons et dans le métro, dans le train. Donc les gens ne sortent plus, les rues sont désertes. Et donc voilà, nos personnages vont être la témoin, enfin le héros va être témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir par rapport à cette histoire de téléportation.
Mais je n'en dis pas plus.
C'est aussi annoncé dans le titre, hein, l'action se situe à Paris. Alors pourquoi plonger la ville lumière dans une semi-obscurité liée entre autres à la pluie ?
Dominique Bertaille.
Il y a un intérêt graphique à ça. Paris me vient un peu en tête comme ça. Et le sujet est quand même assez pessimiste, donc il fallait quand même une ambiance assez pessimiste générale. Dans le scénario, au départ, tout était sous la pluie, quoi, ça c'était vraiment quelque chose de fixé. Et puis après, j'ai rajouté des parties un peu protégées par des champs magnétiques, comme ça, comme il y avait des parties de Paris qui sont, c'est le Paris musée,
et préservé,
où voilà, tout est préservé pour avoir voilà un Paris tout propre, tout net, et avoir deux ambiances très fortes que je trouve de plus en plus flagrantes dans Paris. En fait, c'est moi dans cet album, ce que j'avais un peu envie de faire un portrait de Paris, quoi, d'une sorte de caricature. En forçant un peu le trait, la science-fiction permet de forcer le trait.
Dans ce Paris transformé, les clones, les drones, les hologrammes envahissent les espaces privés et publics. Pourtant, quelques éléments du 21e siècle perdurent encore, comme le métro. Alors désormais, les gens se déplacent via le Transcor, la cabine de téléportation dont on parlait à l'instant. Tous sauf un, Tristan Case, qui vit dans ce monde dont il rejette la déshumanisation, contrairement à sa compagne Chloé, adepte, elle, de cette téléportation. Mais dans cette ambiance rétro-futuriste, des faits inquiétants surviennent. Je vous laisse continuer et je vous écoute en mangeant mes pop-corn à l'azote.
Mais on peut pas trop continuer, sinon on en rêve trop. Mais effectivement, ils vont remarquer qu'il y a des doubles, des personnes ont des doubles qui se promènent dans Paris, qui sont dans un mauvais état. Et comme peu de gens s'intéressent à ce qui se passe en dehors de leur monde virtuel et de leur chambre, Tristan, qui lui, le héros, est un petit peu plus attaché à la manière de vivre ancienne, se promène et au contact avec ça, il va commencer à se poser beaucoup de questions là autour, ce qui est le propre d'un héros, c'est qu'il se pose les questions que les autres ne se posent pas. Et puis l'histoire va doucement déraper dans quelque chose d'assez atroce.
C'est-à-dire que vous y livrez des angoisses personnelles sur l'avenir ou c'est vraiment un pur travail d'imagination et de fiction ?
Ouais, c'est de la fiction, c'est un récit de genre. Hein. Forcément, quand on fait un récit futuriste, c'est rare qu'on raconte quelque chose de réjouissant. Ça plutôt.
Le futur n'est jamais cool, hein. Rarement.
Non, parce qu'autrement, ça nous intéresse. On joue avec le suspense, c'est drôle de jouer avec les peurs. Sinon. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, autant raconter quelque chose qui se passe aujourd'hui.
Dominique, ce sont des angoisses personnelles, des inquiétudes peut-être ?
Dans les années 60, c'était pas si pessimiste que ça. J'ai l'impression que c'est récent que ça soit si pessimiste. Donc c'est quand même un canal qui
bon, ça tourne toujours mal dans les années 60. On monte un avenir un peu radieux.
Il y avait une
qui
fois,
tourne mal.
Ouais, peut-être.
Bah, pensez au Big Brother d'Orwell quand même.
Oui, il y a le Big Brother.
La référence.
C'est vrai. Mais il y avait. Oui, non, sans doute.
Bon, d'accord.
Votre personnage principal, Tristan, est un quarantenaire nostalgique d'un temps un peu moins techisé. Est-ce que vous l'êtes aussi nostalgique ou méfiant, peut-être ?
En tout cas, moi, je suis adapté à un monde un peu moins techisé, c'est sûr. nostalgique, par la force des choses. C'est-à-dire que j'avoue que j'ai un peu de mal à complètement basculer dans ce monde virtuel. On parlait d'Orwell, le cauchemar d'Orwell, on y est aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas l'impression que c'est un cauchemar. Tout le monde trouve ça hyper cool, qu'on soit fliqué en permanence. Moi, ça a plein de côtés sympas, effectivement, quand il s'agit de retrouver ses clés ou ses dossiers. Mais ça, forcément, quand on invente des histoires, on peut pas ne pas se dire que ça va mal tourner.
Dominique Bertaille.
Nostalgique, non, pas tellement, mais un petit peu de Paris. Et cette envie-là aussi de dessiner, c'est quand Zep m'a proposé le scénario, c'est l'envie de dessiner Paris. Parce que j'ai quitté Paris il y a quelques années.
Pour Bordeaux.
Mmh. On est fliqué, ça y est.
Mais oui, tout à fait.
On travaille nos dossiers, on travaille nos
dossiers. Les gros arts, je vois.
Croyez-vous que vous mettiez les pays.
Et donc, il y a une petite nostalgie de la ville et une envie de dessiner Paris. C'est parfois aussi bête que ça, l'envie de départ.
C'est ça, il y en a un qui est à Bordeaux, l'autre qui est en Suisse. Mm-hmm. Donc, vous nous parlez de Paris.
C'est ça.
Ouais, mais toi, t'es né au Parisien et moi, anciennement Parisien.
Ok. Alors dans ce Paris, il y a une ambiance très 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 particulière, hein, parce que l'idée vous est venue en vous promenant il y a quelque temps dans Paris, Zep. Voilà, un jour où il pleuvait. Et sous cette pluie parisienne, qui ressemble là à ce que j'entends une mousson vietnamienne, vous vous êtes dit, tiens, elle sera comment la ville dans 100 ans? Bah du coup, dans 100 ans, il pleut.
Dans 100 ans, il pleut. Il pleut parce qu'on a manipulé le climat et que... On a désinfecté l'atmosphère, ça a forcément des impacts. Tout ce qu'on fait sur la nature, on se prend en retour de bâton, donc on peut imaginer que le climat sera pas très serein dans 100 ans. Et puis, le fait qu'il pleuvait un matin, tôt le matin, il y avait personne dans les rues. Et marcher dans Paris vide, c'est assez fascinant comme expérience. Donc c'était d'imaginer un Paris vide avec un personnage qui traverse Paris pour aller retrouver sa bien-aimée et qui se raconte, qui part dans un monologue. Et j'ai commencé à écrire dans ma tête cette histoire de Tristan qui regrette le métro, qui aime l'odeur du métro, qui est attaché à plein de choses qui sont liées à l'ancienne manière de vivre à Paris, c'est-à-dire d'être massés tous dans des endroits réduits, et tout à coup d'être comme ça dans un Paris quasi post-apocalyptique. Il a la nostalgie de ça.
Ghislain Fontana, c'est notre réalisateur. Je crois qu'on a compris un peu l'effet de lui là. Voilà, ouais. Merci. Si on peut. Hein. C'est bien quand c'est léger, Ghislain. Merci,
Ghislain. Faut pas le lancer sur un concours de paix, Ghislain.
Non, jamais.
Oh bah non, mais là vous avez
lourd.
Son surnom, c'est Ghislain Fontanus.
Jamais ce mot. Dominique Bertaille, est-ce que c'est compliqué de dessiner Paris, enfin surtout comme ça? Et quelles images est-ce que vous aviez en tête, qu'elles soient réelles ou dessinées?
Je me suis baladé un petit peu comme Zep, baladé dans Paris pour retrouver tous les endroits où j'avais vécu, les endroits que j'avais aimés. Voilà, c'est des choix de mise en scène. Parce que dans le storyboard, les lieux ne sont pas vraiment donnés. Donc avec le storyboard de Zep, je me promène je me suis promené dans la ville. Ok, j'aime bien les champs, j'aime bien la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un endroit incroyable.
Je vous arrête un instant sur storyboard parce qu'en fait, je voudrais bien comprendre votre méthode de travail à tous les deux. Vous imaginez l'histoire, vous imaginez le cadre général, et ensuite, vous travaillez ensemble.
En fait, j'écris l'histoire sous forme de storyboard. C'est déjà une bande dessinée, mais avec un dessin très rudimentaire, mais avec déjà des intentions de jeu et de mise en scène. Je trouve plus facile de faire lire ça à un dessinateur qu'un script. Peut-être parce que pour moi, c'est plus facile de penser mon histoire en termes de dessin que de dire case 2.
Mais du coup, ce storyboard ne devient pas une contrainte pour
vous, Dominique ? C'est terrible.
Alors, il faut pouvoir s'en détacher.
Toi, c'est plus facile. Ouais. Mais après, pour moi, c'était terrible parce qu'il est très bien dessiné, il est très bien mis en scène, il est très bien découpé. Donc, on est là face à ça. Bah, qu'est-ce qu'on peut apporter à ça ? Donc, je l'ai lu, appris par cœur jusqu'à pouvoir travailler sans le regarder. Et puis après, je suis parti en longue balade nocturne en me disant, ah, tiens, les personnages, et si ils étaient à cet endroit-là quand ils vivent cette séquence-là?
Est-ce qu'il pleuvait?
Il a plu par moments, oui.
Ghislain Fontana, à chaque fois qu'il dit pluie, tu ne... Merci. On va faire une petite pause dans cette conversation et continuer à parler de 2119, votre nouvel ouvrage aux éditions Quai de Sèvres, c'est ça?
Rue de Sèvres.
La rue Palquet, oui. Bon. Mais pour l'instant, il faut qu'on
se sèche, parce qu'on est mouillé.
Qu'on se sèche déjà, parce qu'on est trempé. Et puis que je vous pose cette question rituelle. Est-ce que vous savez faire ça tous les deux?
Ouf, dans le casque. Oh petit, pas mal. Petit.
Pas mal.
Je me demandais si en le faisant tous les jours, ça pouvait pas créer une petite...
Il faut changer de côté.
Ok, d'accord. Oui.
Ça muscle, bah, je crois.
Ouais. Oui, enfin, quitte à déformer la joue, autant... Ouais, ouais, oui. Ouais. Non, faut équilibrer. C'était juste pour lancer les pop news, de toute façon.
Et les revoilà, qui ça? Le capitaine Berthaud, Gilou, Maître Carlson et le juge Robin, bien sûr.
Les gens à qui vous avez volé ce butin, ils sont dangereux.
Tu sais pas où tu mets les pieds, hein. Tout ça nous dépasse largement.
Engrenage saison 7, ce sera le 4 février sur Canal+, et ça risque encore de saigner.
Liam Neeson est en colère.
Alors, rien d'inhabituel, me direz-vous, en tous les cas dans les films, mais cette fois, Liam Neeson est en colère à la neige, mais dans une luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n'y est pas franchement très sollicitée jusqu'au jour où le fils d'un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la drogue, et comme Nils, c'est Liam, bah ça va pas se passer comme ça.
Carl's dead. Tell me what happened.
He got mixed up with some drug dealer. Viking. He likes certain people.
What is it with all these nicknames? Speedo, Viking, Eskimo.
It's a gangster thing.
Did you have a nickname?
Wingman.
Wingman. Gonna kill him.
Sans froid. C'est normal, hein, ça se passe à la neige. C'est le titre avec Liam Neeson, Amy Rossum et Laura Dern. Et ça sort le 27 février sur les écrans.
La reprise du jour, c'est à la chanteuse Saint-Vincent qu'on la doit. La camarade de jeu occasionnelle de Gabrielle Byrne était sur scène pour un concert caritatif aux côtés de Jack Black, Beck et les Red Hot Chili Peppers. Et elle en a profité pour reprendre un titre de ses derniers, Breaking the Girl. Feeling so good that day. Feeling love that day. Saint-Vincent pour ce titre extrait de Blood Sugar Sex Magik. Elle a d'ailleurs précisé qu'elle avait bénéficié 20 minutes avant de monter sur scène d'une petite leçon express par Josh Klinghoffer, l'actuel guitariste des Red Hot Chili Peppers.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Liam Neeson.
Mais oui, bien sûr, Liam Neeson.
Vous avez reconnu.
Sous la neige. Bravo, Charline. Attendez, je prends ma DeLorean. Pour quitter ce pop-pop-pop de 2119 et aller en 1969. Écoutez un morceau qui s'appelle Good Times, Bad Times. C'est le morceau d'un petit groupe qui vient de démarrer, que j'aime bien, que Zepp aime bien aussi, mais qui ne marchera jamais. Led Zeppelin, non, ne retenez pas ce nom. Je suis sûr qu'en 69, on n'en parlera même plus. Bon, venez quand même avec moi, Zepp, je vous emmène, ça peut peut-être influencer votre carrière. Alors, fermez la porte, et on y va.
Thank you.
Good Times, Bad Times. Led Zeppelin, c'était en 69 sur leur tout premier album. Vous aviez 2 ans, Zepp.
Ah, je m'en souviens. Quand il est sorti, quel choc.
Traumatisme.
Ouais. Je crois que j'en ai mouillé mes pampers.
Et qui dit mention de Led Zepp dans ce pop-up-up dit jingle.
Worldwide exclusive news from Pop-Up-Up Studios.
Eh oui, car je rappelle que Pop-Up-Up, exclusif avec Jimmy Pop-Up-Edge, c'est jeudi prochain. Bien, retour en 2119 dans Pop-Up-Up, en compagnie de Zepp et de Dominique Bertaille pour parler de Paris 2119, leur BD d'anticipation disponible chez Rue de Sèvres. Voilà, je l'ai bien fait là.
C'est très bien.
D'accord. Dans ce Paris de 2119, les quartiers délabrés cohabitent avec les symboles de la capitale, hein, la place Vendôme, Montmartre, l'Opéra Garnier, l'Arc de Triomphe, une nouvelle fois vandalisé, le Parc des Princes. Et d'ailleurs, en 2119, Kylian Mbappé, il a 120 ans, il est toujours au PSG.
Oh, je pense, ouais.
Il est directeur, il est
patron, directeur du PSG.
Votre héros Tristan est assez pattinsonien, il a des petits airs du sympathique Robert, je trouve. Quelles étaient vos inspirations physiques pour les personnages?
Pour Tristan?
Ouais.
Pour Tristan.
Et pour Chloé aussi d'ailleurs. Mais...
Pour Chloé, c'est une esthétique générale de la mode africaine. Je regardais beaucoup de sites.
Elle est spectaculaire, hein, Chloé.
Oui, elle vous plaît. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, elle est un peu sur un. Elle est pas tout à fait sur le même plan graphique parce que. Et, en fait, j'avais vraiment la trouille de la dessiner parce que je pouvais pas me permettre de la rater. Et j'ai dessiné toutes les pages où c'est elle qui est en scène à la fin. Et elle est un peu sur un plan graphique différent. C'est un aplat d'aquarelle. Et tout se joue sur les volumes de l'aquarelle dans le visage. C'est plus du dessin. Et elle est très sombre comme ça, très.
Bah, elle est black, une black.
Oui, mais black, très black, parce que souvent en dessin, black, c'est des traits qui font un peu black, mais rarement une peau vraiment très très noire, quasi bleue en fait.
C'est pour ça que le livre est en bleu et noir plutôt qu'en noir et blanc.
Oui, entre autres.
Mm-hmm. Et Tristan, vous aviez qui en tête?
Et Tristan, qu'est-ce que j'avais en tête? Je sais plus. Il est venu petit à petit.
Ça vous rappelait qui vous?
Robert Pattinson.
Robert Pattinson. Ouais. C'est vrai. Je suis parti de Robert Pattinson au début. C'est vrai. Ouais.
Dominique Bertaille, vous avez adoré dessiner Paris. Vous avez tellement adoré dessiner cette ville que vous l'avez quittée pour aller vivre à Bordeaux. D'un point de vue graphique, en quoi, selon vous, Paris est-elle si propice à la représentation?
Bah, tout est iconique. Donc où qu'on regarde, on reconnaît Paris. C'est très très varié. C'est assez facile de spatialiser l'histoire parce que tout le monde sait à peu près où est l'Arc de Triomphe par rapport au Louvre, par rapport à la Tour Eiffel. Ouais. Donc c'est vraiment très pratique à mettre en scène. Et puis c'est assez varié. C'est beau, c'est magnifique.
De Ratatouille à Woody Allen, hein, tout le monde a voulu capter l'essence de Paris. Souvent, c'est des clichés, des cartes postales. Qui a le mieux réussi, selon vous? C'est une question que je vous pose à tous les deux.
Voilà, c'est vache, ça.
Ouais, c'est une question un peu pourrie.
Il faudrait une petite heure, on en reparle.
Ouais. On est bien, là.
On laisse tourner.
Ouais, ouais. On est bien.
Ouais, je sais pas. Dur. Mais en tout cas sur la partie du dessin sur Paris, là c'est vraiment Dominique qui est parti, hein, qui a refait toute cette partie de l'album, hein, et il est parti en repérage longtemps et je trouvais que c'était vachement intéressant de voir de quelle manière, enfin il a aussi joué sur le fait que des artistes contemporains se sont emparés de Paris dans 100 ans, donc il y a des interventions même sur des monuments qu'on connaît, la statue des place des Victoires, elle est un peu polluée par, enfin polluée non, il y a une intervention artistique contemporaine dessus, voilà. Et c'est assez marrant parce que il y a un mélange, tu as mis aussi beaucoup d'artistes qui sont des artistes actuels. Ou même des années 80, que tu replaces dans un monde futuriste, et que ça donne quelque chose de complètement science-fiction.
Ouais, parce que j'aime bien les, comme ça, dans les villes en général, mais Paris en particulier, il y a des strates historiques. Ouais. Donc pour faire une histoire du futur, j'ai essayé d'inventer un passé à ce futur-là, qui est le futur pour nous, mais qui est le passé pour les personnages. Et ces strates-là, ça fait que on va être un peu, ça va créer une histoire à la ville. Et j'avais été assez marqué par Buren quand j'étais ado. Mais le fait que ça, qu'il y a un artiste comme ça qui envahisse l'espace public de façon assez marquée quand même.
Marquante.
Ouais. Et presque un peu envahissante.
Bah, voilà. J'avais cherché.
Donc j'ai essayé de réimaginer un artiste comme ça de 2050 par exemple qui envahirait les Paris et qui ferait exploser de l'intérieur l'Arc de Triomphe, la place des Victoires, mm-hmm. comme des espèces de virus métalliques. Mm-hmm. Bon, après, c'est des images très intuitives, hein. Je sais pas encore exactement la raison de tout ça. Mais...
2119 de Zepp et Dominique Bertaille, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Oui, c'est un bouquin absolument épatant. Zepp, Dominique Bertaille, on est vendredi, et vendredi, ce n'est pas que le lendemain de cuite de tous les étudiants en école de commerce qui se sont pété la voix sur les lacs du Connemara. Non, c'est aussi le jour de livraison du magnéto Le Grand N'importe Quoi d'Alexandre Verret, et je vais voir de ce pas s'il a été livré à la cave. Allez, j'y vais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un vaisseau spatial qui descend du plafond, qui clignote dans tous les sens. Oh, oh, ça s'ouvre. Disons, ils ont investi chez Deliveroo. Toujours des Sri Lankais. Oh, mais qui t'es, toi? E.T. Et c'est toi qui livres le magnéto? Mais j'avais pas demandé des merguez. Ah non, pardon, c'est ton doigt. Bon, bah écoute... Vas-y, comme t'es là, t'appuies sur play. Fais gaffe au tâche de gras quand même.
Oh, commandant!
Je suis touché, sergent. Continuez sans moi.
C'est affreux. Non, commandant, non.
Si, continuez. Je vais vous retarder.
Allô, commandant, ne dites pas ça. On va vous tirer de là.
Écoutez, sergent, non, c'est clair. Merde de la fin.
Qu'est-ce que vous faites?
Je me casse.
Oui, non mais c'est sympa, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon frigo? Et toi là, t'es assis sur le ketchup?
Ping-pong, circulate.
N'importe quoi.
Ah! Chérie, tu veux pas aller changer le bébé, s'il te plaît?
Faudrait peut-être lui dire que c'est plus un bébé maintenant.
Ah! Merci Alexandre Verret. Le Grand N'importe Quoi, c'est chaque vendredi dans Pop-Pop-Pop. Tiens, E.T., comme t'es là, tu veux bien écouter un morceau avec nous, hein? Dis-moi que ça te ferait plaisir. Quoi? Tu voudrais Johnny Hallyday avec Jimmy Page? Oh, monsieur est connaisseur. Bon, allez, roulez.
Dans la vie, je n'aime pas marcher au ralenti.
Jimmy Page, Johnny Hallyday, featuring improbable, hein, c'est dans Pop 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 sur France Inter et c'était à tout casser. Ça date de 68, me dit Charline. Alors, attendez, est-ce que je vous ai dit que Jimmy Page venait dans Pop Pop Pop?
À peu près 425 fois.
Ah, mais c'est pas,
c'est pas jeudi, non?
Ça sera jeudi, jeudi, hein, absolument, ouais. Jeudi à 16h dans Pop Pop Pop, Jimmy
qui
Page.
Ça ah oui, ok.
Merci, merci.
Je me demande s'il fait pas, il joue pas sur un titre de Carlos aussi.
Alors si je l'ai pas retrouvé celui-là, non.
Cherchez bien dans la cave.
Moi, je l'ai pas retrouvé, mais je... oui parce qu'en ouais. fait il a fait beaucoup de sessions à l'époque pour plein de gens. Ce serait peut-être pas tout à fait impossible. On va les vérifier. Zep, Dominique Bertaille, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous tous les deux laisser symboliquement ici?
Moi je peux vous laisser Dominique Bertaille parce que alors il va tout vous redécorer, ça va être génial.
Il va nous taguer la cave.
Ouais. Et je prends de ton crayon avec.
Voilà.
Pour pas trop m'embêter, mais j'accepte.
Et vous, vous laissez quoi, Dominique? En même temps, vous êtes déjà là. Si vous êtes dans
la cave. Je vais prendre avec moi mes lunettes.
Oui.
Voilà. Qui est un grand moment pour moi, qui est la grande découverte de l'album que je viens faire. Elles sont toutes nouvelles et je savais pas que je voyais flou et je viens de découvrir en faisant cet album qu'on pouvait voir net. Et j'ai découvert le dessin vraiment.
Ça explique tous les albums précédents, en fait.
Voilà. On aimait vraiment.
Très bien, merci.
C'est la bombe.
Merci, Dominique Bertaille. Et Zep, Paris 2119, c'est édité aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci. Hein?
Oui, d'accord. Parfait.
Et ça sort mercredi prochain, la veille de l'ouverture du Festival d'Angoulême. Merci d'être venu. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Clément Berman, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, et à la programmation musicale, Djoubaka. Lundi, dans Pop Pop Pop, une spéciale ski pop. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos eau de vie sur YouTube. Abonnez-vous, putain, ça débouche une canalisation, votre truc, là. À notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop pop pop, sur Instagram et tweetez.